Jean-Philippe de Capreval. Effectivement, on va faire cette présentation d'une partie des résultats d'études à deux, donc on la fera avec Jean-Luc. Avant de démarrer la présentation des résultats d'études, quelques mots introductifs pour resituer ce travail dans le contexte dans lequel on l'a mené. Alors, simplement dire que Capreval, c'est un centre de ressources qui travaille autour de la problématique ou des thématiques de développement local et rural. Et donc, qu'à travers cette thématique-là, on était assez naturellement amené à se poser des questions sur l'entrepreneuriat collectif et l'union collectivité en milieu rural. Donc voilà, donc avec pour mission d'accompagner les agents de développement, les élus sur les territoires. Bref. Donc, on a commencé à s'intéresser à ce sujet parce que depuis quelques années, sur les territoires ruraux, on constate l'arrivée effectivement de porteurs de projets collectifs. Et donc, voilà, ça c'est un fait qui remonte à quelques années, mais qui est en fait en train de s'amplifier, des porteurs de projets collectifs qui agissent avec une entrée économique, quoi. Et puis ça, c'est une première partie. Et puis on a un deuxième type de constat, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus de structures existantes qui collaborent, qui coopèrent autour de projets collectifs également. Donc voilà, on a ces deux entrées-là qui arrivent avec de l'entrepreneuriat un peu différent, collectif sur les territoires, et donc qui nous ont interrogés. Alors nous, on a utilisé le terme collectif, pas coopératif. Bon voilà, après, pour en discuter, parce que ça reste à identifier aussi dans bien des cas. Donc ces nouvelles manières d'entreprendre, elles sont intéressantes pour le développement local parce que c'est du développement économique, mais c'est aussi du développement local. Et puis, c'est des combinaisons d'activités qui sont fortement ancrées sur les territoires et qui génèrent, au-delà des impacts économiques, de la dynamique sociale, culturelle, enfin, etc., etc. Donc, voilà, c'est quand même des objets qui sont fort intéressants pour le développement local. Et puis, au-delà de ce constat-là, on s'aperçoit aussi, enfin, on s'est au moins interrogé sur ces questions, c'était à début de l'enquête de vérifier ce point-là, on s'aperçoit bien que enfin, les collectivités ont du mal à se saisir de ce genre de projet, parce que voilà, c'est quelque chose, c'est des projets qui sortent quand même du cadre dans lequel elles ont l'habitude d'agir, et donc du coup, voilà, il y a une difficulté à repérer, à comprendre ce qui se passe. Puis c'est valable de l'autre côté, quand on s'aperçoit, nous, on avait le sentiment aussi que les porteurs de projets, il y avait une méconnaissance des collectivités. Alors, c'était évoqué tout à l'heure sur le niveau d'intervention des collectivités, mais voilà, enfin, leur fonctionnement, et donc une difficulté à dialoguer avec les collectivités. Et donc, à partir de là, on s'est dit que voilà, il y avait quand même un vrai travail, enfin, il y avait un vrai enjeu, en tous les cas, à comprendre quelles étaient ces nouvelles formes d'entrepreneuriat. Quels étaient les liens au développement local et aux acteurs du développement local et notamment des collectivités, avec l'idée derrière de se dire qu'une fois qu'on aurait compris ça, ça serait beaucoup plus facile pour Capreval, dans notre rôle de centre de ressources, d'initier, d'apporter des pistes de travail, des méthodes, etc., pour faciliter ce lien entre les porteurs de projets collectifs, d'entrepreneuriat collectif et les collectivités et acteurs du territoire, de manière à ce que voilà, ces formes d'entrepreneuriat, avec tout l'intérêt qu'elles ont, puissent émerger facilement sur le territoire. Voilà, donc voilà le cadre défini. L'étude a été réalisée effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, par Charlène Nicolet de Terreau et Jean-Luc Chetagna de la manufacture coopérative. Et donc voilà, donc avec l'objectif de comprendre pour derrière pouvoir proposer des choses. Donc, peut-être changer de diapo. Je peux prendre le contrôle. Bon, voilà. Jean-Luc, on se complète sur les diapos. Donc, ce qu'on s'était dit, c'était qu'effectivement, ce qui pouvait être intéressant compte tenu de la thématique de la conférence de ce soir, c'était de ressortir des résultats de l'étude, de gradients qu'on avait fait sur justement la relation entre porteurs de projets. Et donc collectivité. Donc il y avait un premier gradient qui était en fait les ingrédients qui font qu'on passe de la défiance au comportage dans le cadre de la relation entre ces porteurs de projets collectifs et les collectivités. Donc, avec un premier point qui était la défiance. Donc là, on est bon, à travers cette défiance, pour la qualifier un peu globalement, enfin, c'est une méconnaissance réciproque enfin, qui est un véritable frein pour les relations, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Avec d'une part l'incompréhension, une incompréhension de la part des collectivités sur la nature du projet ou son impact pour le territoire. Pas forcément de lien précoce entre les porteurs de projet et la collectivité, hein, contrairement un petit peu à l'exemple qu'on a eu sur Montélimar tout à l'heure. Et puis une méfiance des porteurs de projet vis-à-vis de la collectivité, réciproque des élus vis-à-vis des porteurs de projet. Donc voilà, à travers ça, ben, plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, hein, une vision faussée peut-être de la part des porteurs de projet, enfin, de ce qu'est le développement local et des modes de fonctionnement des collectivités. Pour les collectivités, des projets économiques qui ne rentrent pas dans le cadre habituel, associations, collectifs, est-ce que ça ne veut pas dire amateurisme? Voilà des questions qui peuvent se poser de cette manière-là. Peut-être aussi à travers la nature de ces projets collectifs qui sont quand même souvent actifs, avec une combinaison d'activités, parfois des thématiques qui sont traitées dans le cadre de ces projets collectifs, mais qui, pour certaines collectivités, sont un peu ressenties comme une mainmise sur des sujets qui les concernent. Voilà, il y a tout ça qui fait que on n'est pas dans une relation facile, on est plutôt dans une défiance réciproque, quoi. Jean-Luc, tu voulais rajouter quelque chose sur ce point?
Non, sur la défiance, c'est ce qu'on a observé, hein. On a eu des retours d'acteurs qui exprimaient cet état de fait, donc c'est une réalité.
Alors, pour préciser sur l'étude quand même, pour bien comprendre, enfin, l'idée a été quand même à travers enfin, le recueil, peut-être que Jean-Luc, tu en diras quelques mots, enfin, a été quand même sur la méthode d'essayer d'enquêter, de rencontrer, enfin, d'associer des collectivités, donc élus, agents de développement, des acteurs de projets d'entrepreneuriat collectif et des acteurs du monde de l'accompagnement, de la création d'activités. Donc voilà, de façon à pouvoir balayer assez large et avoir un retour assez complet justement sur ces modes de relation et sur cette compréhension de ces projets et de leur lien au territoire. Sur la
Ce qui est
partie.
intéressant, c'est de noter qu'il y a vraiment une grande diversité, une grande disparité sur les territoires, sur ce niveau de gradient, justement. Et ça serait vraiment intéressant d'avoir une analyse beaucoup plus fine, territoriale, pour voir les territoires, justement, où il faudrait, agir de manière beaucoup plus importante pour améliorer les relations, quoi.
Tout à fait, oui. Ça fera partie, j'espère, des sujets qu'on pourra traiter à la suite de l'étude. Sur la deuxième partie du gradient d'observation, donc curiosité réciproque, bon, là on avance, hein. Chaque acteur s'intéresse aux actions de l'autre et à son fonctionnement. Donc bon, on est déjà dans dans quelque chose qui, enfin, où il y a l'échange, il y a un minimum d'échange et de discussion entre les porteurs de projets et les acteurs du territoire. Donc ça veut dire que là, enfin, on a un petit peu dépassé cette question de défiance pour mettre en place un certain nombre de lieux, je ne sais pas si c'est des lieux, mais de lieux, de moyens, de modes d'échange et de discussion pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, qu'est-ce que fait l'un et l'autre, et peut-être essayer de voir comment on peut aller sur l'entrée de la collaboration, quoi. Donc, qui est la partie du gradient qui suit, et où en fait, là, on s'aperçoit que de cette partie de la compréhension, dès qu'il s'enclenche quelque chose et que des premières relations commencent à émerger, ben, on passe alors plus ou moins rapidement en fonction du territoire, c'est un peu ce que disait Jean-Luc, en fonction de la nature des projets, etc. Mais on bascule sur une collaboration entre ces porteurs de projets, entrepreneuriat collectif et les collectivités. Donc là, on sort un petit peu à la fois de cette vision un peu étroite que peut-être avoir certains porteurs de projets au regard des collectivités. Et puis, pour les collectivités, d'un intérêt pour les projets plus que d'un regard méfiant. parce que on connaît pas forcément ce type de projet, on connaît pourtant des projets collectifs, etc. Et donc du coup là, enfin voilà, il se passe quelque chose, il y a un basculement. Et puis on passe au colportage, hein, donc là on passe sur une notion de confiance des porteurs de projet et la collectivité ont l'occasion de collaborer, pardon. Et donc la confiance se crée. Voilà, et puis ça veut dire que ça rejoint un peu tout ce qui était évoqué tout à l'heure. C'était intéressant tous ces exemples, hein. Et donc du coup effectivement il y a un échange de points de vue, il y a un enrichissement mutuel sur les problématiques et les thématiques de développement local. Il y a un partage de compétences, les compétences des collectivités qui peuvent être mobilisées sur les questions juridiques, thématiques, etc. Mais aussi des compétences des porteurs de projet sur leur capacité, c'était évoqué, je ne sais plus sur quel projet, mais sur le fait d'amener des nouvelles méthodes, je crois que c'est un terrain cube qui en parlait, des nouvelles façons de travailler, d'associer les gens, enfin de travailler avec les acteurs du territoire. Donc voilà, c'est un enrichissement mutuel, quoi. Donc voilà, et puis on a mis en fin de course Taskig, dont on a pas mal parlé. Voilà pour cette partie sur les ingrédients qui font que on passe la relation évolue sur un territoire entre ces porteurs de projet et les collectivités. Jean-Luc, pareil, est-ce que tu souhaites peut-être rajouter
Oui, ben dans le colportage, on a aussi eu des cas de croisement en fait de projets, c'est-à-dire des collectivités qui portent des projets entrepreneuriaux, qui à un moment donné décident d'elles-mêmes de donner l'impulsion pour que l'activité soit créée et qui rencontrent des porteurs de projets. Et il y a des formes de transmission, c'est-à-dire que la collectivité initie et les porteurs de projets ensuite prennent le relais et développent l'activité, quoi. Donc, on voit qu'il peut y avoir aussi des dépassements de fonctions qui sont salutaires pour les territoires et qui permettent de résoudre des situations un peu compliquées où des porteurs de projets vont reprendre des initiatives publiques et inversement, des acteurs publics peuvent enclencher des initiatives privées mais qui restent d'intérêt collectif avec une dimension d'utilité sociale.
La dernière diapo, au-delà d'avoir constaté un petit peu quels étaient les points qui pouvaient bloquer ou qui pouvaient débloquer ces relations, l'idée était, enfin là, était de voir comment on peut lever les freins, quoi. Enfin, quels peuvent être à la fois, enfin, des éléments de compréhension et des pistes d'action qui permettraient d'avancer et faciliter cette relation. Pour que les projets émergent peut-être plus facilement. Donc voilà, donc là on a repris quelques éléments. L'étude en termes de pistes d'action ressort une soixantaine de pistes, donc c'est assez riche. Enfin, il y a un travail à faire de priorisation, enfin, etc. Mais bon, donc du coup là on a ressorti dans cette idée de gradient quelques éléments. Donc sur la défiance, casser les représentations limitantes, bon, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de part et d'autre, hein, cette question de collectivité, outils très réglementaires, peu adaptés à des projets qui sont agiles, etc. Puis en même temps, projet d'entrepreneuriat collectif, quelle est la réalité économique, comment ça fonctionne, etc. Identifier et relever le potentiel d'emploi généré par des projets collectifs. Alors ça, c'est quand même important parce que, Jean-Luc pourra en témoigner, mais on s'est aperçu à travers l'étude qu'effectivement, il n'y avait pas, enfin, c'était très compliqué pour les collectivités, de façon générale, hein, de mesurer l'impact que ces projets pouvaient avoir sur les territoires. Donc, en termes d'emploi direct, dans le cadre de ces collectifs d'entrepreneuriat, mais aussi en termes d'impact indirect sur les territoires, quoi. Donc voilà, tout ce que l'activité du collectif, l'entreprise collective va pouvoir consommer comme bien et service sur le territoire. Ensuite, il y avait mieux articuler les initiatives collectives, les politiques publiques territoriales. Alors, effectivement, avec toute la question des politiques publiques qui sont pas toujours adaptées à ce type de projet. Là, par exemple, on sait que ce type de projet sont des projets qui s'inscrivent dans du temps long. Ça a bien été expliqué tout à l'heure avec l'exemple, le premier exemple. Donc voilà, sur la construction, ça prend quand même du temps. Et donc, du coup, effectivement, parfois, les dispositifs des collectivités réglementaires, ils sont un petit peu trop figés. Les appels à projets, par exemple, qui ne correspondent pas, dans la durée, dans le temps, etc. Donc, en prendre la mesure et essayer d'avancer là-dessus. Faciliter la première action d'amorçage et puis accompagner la dimension collective. Donc voilà, effectivement, on est sur des projets qui sont très spécifiques. Cette dimension collective, elle est importante à accompagner. Jean-Luc, je te laisse. Tu veux rajouter quelque chose sur cette première Est-ce que vous m'entendez? Oui?
Oui, c'est bon, oui.
C'est bon, donc Jean-Luc, non. La partie observation, donc comment on passe à cette partie d'observation? Donc l'idée là, c'est d'articuler finement les différents niveaux de collectivité territoriale. Donc là, effectivement, il y a aussi toute cette question-là, c'est évoqué à travers le projet. On a commencé par voir le département, puis après on a voir les communautés de communes, et puis ou alors les communes, elles ont un rôle important parce que elles possèdent, ou elles ont à disposition du local, du foncier, etc. Elles peuvent nous accompagner. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement d'arriver à bien articuler ces différents niveaux de collectivité pour qu'en fait, ça réponde au mieux dans les différents temps, dans les différentes phases d'évolution du projet, à leur mise en œuvre, quoi, que les collectivités elles soient là pour appuyer au mieux la réalisation des projets. Animer et dynamiser un écosystème d'accompagnement local, ça ressort de façon très forte sur l'étude, avec à la fois des acteurs de l'accompagnement classique, je dirais, c'est pas péjoratif, qui sont présents localement, des acteurs, je vais le dire comme ça, mais qui peuvent être plutôt des acteurs régionaux qui sont déjà qui sont dans ces dynamiques d'accompagnement de projets d'entrepreneuriat collectif, Alterin-Q, Alterin-Q avec d'autres acteurs. Et donc, du coup, comment on articule au niveau du territoire l'ensemble de ces acteurs qui agissent pas forcément sur le même public, qui agissent pas forcément au même degré territorial ou au même niveau territorial, et comment on les articule pour que localement, ça crée un écosystème qui soit en capacité d'accompagner au mieux ces projets collectifs, quoi. Donc voilà, avec des entrées thématiques, des spécificités, notamment la dimension collective, la gouvernance, voilà, il y a toute la partie économique, projet, etc., modèle économique, puis il y a toute la vie du collectif, etc., qu'il faut prendre en compte. Intégrer le temps long dans l'accueil et l'accompagnement des projets collectifs, dont j'évoquais tout à l'heure un peu avec la question du fonctionnement des collectivités et des politiques publiques, ça se croise. Valoriser les études de marché et besoins d'action. Donc là, on a, sur le volet observation, là, un peu les leviers qui ressortent de façon un peu forte, qui font que, si on mettait en place, ou si on tenait compte de ces points-là, on faciliterait quand même pas mal les choses. Jean-Luc? Timo? Complémentaire ou ça te va?
Jean-Luc, ton micro est coupé pour l'instant.
Oui. Ouais. J'ouvre le micro. Non, je voulais dire que l'écosystème d'accompagnement, je pense que il y a besoin vraiment d'un organisme intermédiaire en fait qui joue le rôle de chef d'orchestre et qui soit l'intermédiaire un peu entre les porteurs de projets et les différentes structures d'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de ressources, mais elles sont pas toujours bien utilisées. Et dans certains cas, les EPCI par exemple, les groupements de communes peuvent jouer ce rôle et être au fait de différentes structures, de leurs compétences et comment elles peuvent intervenir, voire initier des temps de travail commun. Ça a été demandé aussi par certains accompagnateurs d'avoir des espaces de rencontre avec les différentes structures d'accompagnement.
Est-ce que Jean-Philippe et Jean-Luc, vous pouvez essayer de finir en 2 minutes à peu près, qu'on puisse garder un petit peu de temps pour faire des échanges?
Oui, on finit en 2 minutes. Donc après, le gradient toujours sur la question de la collaboration, il y a l'accompagnement des porteurs de projets individuels vers des démarches collectives. En fait, c'est aussi quelque part inciter sur des projets des entrepreneurs individuels à se structurer voilà, sur des projets collectifs pour toutes les bonnes raisons qu'on évoquait sur les projets collectifs. Multiplier les outils structurants d'acquisition de foncier d'immobilier, bon, c'était évoqué, hein, l'importance pour l'émergence de ces projets d'accès à ces moyens-là. Le développement de modèles hybrides de financement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bon, voilà comment. Comment on peut adapter les financements à la fois publics et privés pour qu'ils soient mieux phasés et mieux en lien avec les besoins de l'entrepreneuriat collectif. Et puis, améliorer l'accès à une expertise ciblée. Donc, voilà, c'est aussi toute la question des thématiques spécifiques, etc., etc. Et puis, pour la question, pour le dernier point qui est le point du coportage, trouver le bon niveau de coordination, donc voilà, c'est voilà, quoi, voilà. Et puis animer et dynamiser un écosystème d'accompagnement qui revient une fois de plus avec là, enfin l'entrée au-delà de l'accompagnement classique, enfin généraliste peut-être, enfin, des questions d'accompagnement thématique en mettant en lien des projets enfin, qui traitent par exemple de l'environnement, voilà. Puisse échanger et avancer ensemble. Donc voilà. Et puis, juste dernier point sur les politiques publiques que j'ai complètement oublié de citer, mais qui est un point important, c'est aussi la capacité des collectivités à associer les porteurs de projets, enfin, l'entrepreneuriat collectif à ces politiques publiques, avec par exemple l'exemple de donner un porteur de projet, enfin, sur les déchets notamment. Une ressourcerie qui était un petit peu en marge de ce que pouvait faire la collectivité. Et du coup, entre la politique de la collectivité sur cette thématique-là et l'activité de la ressourcerie, ben, il y avait des liens intéressants à faire. Donc voilà, au-delà de cet exemple-là, c'est bien croiser les choses. Voilà. Enfin, pour moi, voilà, je ne sais pas si Jean-Luc, tu souhaites.
Ouais, juste très rapidement, c'est de mieux. Articuler en fait la définition des politiques publiques avec l'initiative collective, je pense que ça c'est un levier important pour qu'il y ait une meilleure de meilleures passerelles entre ces acteurs quoi. Et donc ça veut dire que parfois les politiques publiques peuvent aussi s'inspirer d'initiatives collectives et laisser de la place en fait, et inversement que les acteurs soient beaucoup mieux informés et beaucoup mieux bah, participer encore plus à la définition des politiques publiques en amont.
Oui, tout à fait.
Merci. Vous avez déjà une question, du coup je vous la pose. Séverine vous demande si vous avez observé des difficultés dans la construction de la relation projet collectif-collectivité.
Jean-Luc, je te laisse.
Alors oui. On a observé des difficultés donc qui sont liées bon à ce qu'on connaît, à ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire des différences de temporalité. Importante. On n'a pas du tout la même temporalité entre les collectivités et les porteurs de projets collectifs qui souvent ont la tête dans le guidon et qui vont penser à très court terme, et puis potentiellement des collectivités qui ont des politiques publiques qui se mettent en œuvre sur un mandat, donc c'est beaucoup plus long. Ensuite, il y a la question de la relation au sein du collectif, puisque un collectif, il y a plusieurs représentants, plusieurs personnes, donc des collectifs ont exprimé leurs difficultés aussi à déléguer, nommer des porte-paroles. Il y a besoin qu'il y ait une prise en compte dans la relation de l'ensemble du groupe, pour des raisons aussi de vie démocratique. Voilà. Après, dans la relation, va se poser aussi la question de savoir est-ce qu'on est plutôt en relation avec les élus, avec les techniciens, et du coup, quels services sont concernés par les projets. On est souvent sur des projets qui sont multidimensionnels, donc du coup, qui s'adressent à plusieurs personnes au sein de la collectivité. Il n'a pas facilité la construction de la relation pérenne, quoi, ou simple en tout cas.